Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, dans le cadre de la grande journée de la Terre d'Europe 1, il est explorateur, il a déjà fait le tour du monde deux fois, en avion solaire s'il vous plaît. Bertrand Piccard, un écolo pas comme les autres, pragmatique et pro-business. Il sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de ces 1000 solutions concrètes qu'il propose au gouvernement. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Marine Le Pen aux portes du pouvoir, c'est la conclusion d'une nouvelle grande étude, on en parlera. 19h15, la carte blanche offerte ce soir au chef étoilé Philippe Etchebest, qui réagira en direct aux annonces de Jean Castex. 19h20, le Club des idées. Grand débat ce soir sur le pari justement du déconfinement, dont Jean Castex dévoile en ce moment une partie du calendrier. C'est un pari car les contaminations restent, on le répète, à des niveaux très élevés. Alors, comment ne pas se rater cette fois? Pourquoi n'applique-t-on pas les bonnes recettes qui fonctionnent à l'étranger, comme à Taïwan, en Corée du Sud ou encore en Australie, et qui ont fait leurs preuves? Isolement obligatoire, tracking, test à grande échelle. On en parlera donc avec nos invités tout à l'heure à 19h15. Voilà pour le programme. D'abord, toute l'info avec le journal d'Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Protocole sanitaire strict dans les écoles à partir de lundi. Un cas positif égale une classe fermée. C'est ce que doit annoncer le Premier ministre dans un instant.
Les lycéens, eux, retourneront étudier à partir du 3 mai, mais en demi-jauge.
Jean Castex doit également préciser la levée de certaines restrictions, fin des limites de déplacement et peut-être un horizon plus précis pour la réouverture des restaurants, des bars, des commerces et des lieux de culture.
Les infos exclusives d'Europe 1 des débuts de ce journal et on entendra l'impatience des commerçants pour qui il est impératif de rouvrir dès le 10 mai.
Emmanuel Dutheil nous dira également que l'État s'apprête à arrêter progressivement ses aides pour les secteurs non prioritaires, mais que le PGE sera lui accessible jusqu'à la fin de l'année.
Le procès des 18 policiers de la BAC Nord de Marseille, poursuivis pour des vols de drogue ou d'argent, accouche d'une souris. 7 sont relaxés, les 11 autres écopent de peine de prison avec sursis.
Climat, Joe Biden affiche ses ambitions, le monde applaudit le grand retour des États-Unis.
Et puis la saison prochaine, Neymar jouera avec un ballon, Décathlon.
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,91% à 6267 points.
La météo avec Anissa Dadi, bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
C'est demain, attention, roulement de tambour, la plus belle journée de la semaine.
Oui, ça y est, c'est demain que c'est prévu avec un soleil généreux qui va briller dans toutes les régions, dans un ciel totalement dégagé. Et en plus de ça, les températures vont grimper. Nous allons dépasser la barre des 25 degrés. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc le grand retour de la conférence de presse du jeudi.
Oui, le grand retour de Jean Castex et de ses trois ministres qui s'apprêtent à répondre aux nombreuses questions que se posent les Français, notamment concernant l'école, à 4 jours de la réouverture des maternelles et des primaires.
Bonsoir Virginie Riva.
Bonsoir.
Alors pour préparer ce retour en classe après 3 semaines d'absence, une réunion a eu lieu cet après-midi au ministère de l'Éducation nationale avec les syndicats et on leur a donc confirmé, Virginie, un protocole sanitaire strict.
Oui, exactement, avec la fermeture des classes dès l'apparition d'un seul cas de Covid. C'est le protocole qui a été testé pendant une semaine avant la fermeture des classes, mais seulement dans les 19 départements qui étaient alors confinés. Mais là, ça serait sur tout le territoire. On sait que cette mesure impliquera forcément de très nombreuses fermetures de classes. Mais pour Guylaine David du SNUIPP, c'est quand même une très bonne chose.
C'est une demande que nous avons et que nous portons auprès du ministre déjà depuis une dizaine de jours parce que ça évitera d'avoir une diffusion dans les autres classes et à l'intérieur même de la classe. Donc ça permet de protéger à la fois les élèves, les personnels et les familles.
Voilà, et le gouvernement se laisse d'ailleurs la possibilité d'en faire le bilan très rapidement pour adapter le protocole. Deuxième information, les lycées passeraient tous en hybride sur tout le territoire. Avant les vacances, c'était uniquement dans les départements confinés. Côté collège, là aussi, passage à l'hybride pour les établissements qui seront dans la liste des départements sous tension, liste qui va être dévoilée par Jean Castex. On ne sait pas encore pour quel niveau, 4e ou 3e. Concernant les tests salivaires, ce ne sera pas 1 million, mais plutôt 600 000 tests proposés par semaine, d'ici 2 semaines pour les écoliers. Et ils seront également étendus aux collégiens. Les autotests, eux, sont réservés au personnel 2 fois par semaine et aux lycéens, à ce stade, 1 fois par semaine. Puisque la Haute Autorité de Santé recommande de les utiliser à partir de 15 ans, ils devraient pouvoir être déployés à partir du 10 mai. Ils seraient à ce stade réalisés au lycée, mais les syndicats ne savent pas s'ils seront faits en classe, sous la supervision d'un enseignant. eux n'y sont pas favorables.
Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Voilà les déclarations à l'instant de Jean Castex qui nous dit que le pic de la troisième vague semble bien derrière nous. Alors outre l'école, le Premier ministre et ses ministres devraient aussi aborder le volet sanitaire et la levée progressive des restrictions, très attendue évidemment par les Français.
Oui, a priori dès le 3 mai, on devrait de nouveau pouvoir se déplacer partout en France sans limitation et sans attestation.
Concernant maintenant cet horizon de la mi-mai évoqué par Emmanuel Macron, la réouverture des terrasses, des commerces, des lieux de culture, là encore le Premier ministre devrait en dire plus dans quelques instants.
Et nul doute que les restaurateurs, les patrons de bars, les commerçants qui sont actuellement fermés seront particulièrement attentifs à ces annonces. Des commerçants qui plaident pour une réouverture la plus rapide possible. Après le 10 mai, ce sera trop tard, disent-ils. Écoutez Emmanuel Leroc, il est délégué général du Procos, c'est la Fédération des commerces spécialisés.
L'important, c'est de ne pas amputer le mois de mai. Il y a en fin de mois, vous le savez, la fête des mères, qui serait extrêmement compliquée à gérer pour certaines activités si jamais les activités ne se passaient pas bien, la bijouterie, la parfumerie, etc. Et puis le textile, qui souffre de tout décalage de réouverture, puisque aujourd'hui, on vend des collections d'été. Il faut qu'on puisse les vendre aussi vite que prévu pour se retrouver dans une situation pas plus compliquée que celle de l'année dernière. Et il est largement temps de le faire, puisqu'en fait, beaucoup d'entreprises sont même sur une partie de leur stock, sur des stocks qui n'avaient pas été vendus l'an passé. Donc il ne faut pas amener de la difficulté à la difficulté. Donc on a, toutes les activités saisonnières réclament d'ouvrir dans cette première quinzaine de mai, et pas plus tard.
Le délégué général du Procos, la Fédération des commerces spécialisés, joint pour Europe 1 par Aurélien Fleurot. Alors on le disait, on n'a toujours pas de date de réouverture pour ces commerçants, malheureusement. En revanche, le ministre de l'économie a fait des annonces aujourd'hui sur le dispositif d'aide pour les entreprises les plus touchées par cette crise, Emmanuel Dutheil.
Oui, actuellement, le montant du salaire des personnes en activité partielle représente 84% du salaire net, le tout en grande partie pris en charge par l'État. 15% du montant incombe aujourd'hui aux entreprises. Mais voilà, pour les secteurs non protégés, donc pour tous ceux qui ne sont pas fermés par décision administrative, eh bien, la contribution de l'État va baisser à partir du mois de juin. Le reste à charge va passer alors de façon progressive sur plusieurs mois à 40% pour les entreprises. Et seulement 72% du salaire sera pris en charge à ce moment-là. Plus largement, le gouvernement réfléchit à la sortie de crise avec cette question à plusieurs milliards d'euros. Quand arrêter les aides sans casser la reprise économique? Et je peux vous dire que cette question donne des sueurs froides à Bercy. Sans activité partielle, sans fonds de solidarité, sans report de charges, des milliers d'entreprises se seraient effondrées. Seule certitude, il va sûrement falloir faire du sur-mesure, dit-on à Bercy. Par exemple, si les terrasses rouvrent, ça ne rend pas viable un restaurant. Si les cinémas rouvrent avec des jauges de fréquentation basse, c'est la même chose. Il faudra donc réussir à lever une partie des aides sans tout couper.
Emmanuel Dutheil, chef du service éco d'Europe 1.
Oui, la dimension économique, on y reviendra avec nos invités tout à l'heure dans le Club des idées à partir de 19h15. Dans l'actualité également ce soir, la récolte de vin dans les vignes françaises sera amputée de 28 à 30%.
Oui, c'est la conséquence évidemment de l'épisode de gel exceptionnel qui a sévi au début du mois. La perte est estimée entre 12 et 15 millions d'hectolitres selon les professionnels.
Le délibéré cet après-midi au procès des policiers de la BAC Nord de Marseille.
Après 9 ans d'instruction, affaires de corruption, vol de drogue ou d'argent, le procureur de l'époque, Jacques Dallest évoquait la gangrène qui aurait gagné ce service de police. Et bien finalement, Stéphane Frangy, aucun de ces policiers n'ira en prison.
Oui, des peines avec sursis seulement allant de 2 mois à 1 an sans inscription au casier judiciaire et un soulagement en conséquence immense pour les 18 prévenus accueillis à la sortie du tribunal par de longs applaudissements et des accolades de leurs proches. Dénouement de 9 ans d'instruction, 9 ans de gâchés selon Virgile Reynaud, un des avocats de la défense.
La montagne, je l'avais dit dès le départ, a couché d'une souris. Il faut se poser les bonnes questions. Il y a un retour d'expérience à faire. On vient après 9 ans d'instruction. Eux, ils ont souffert pendant 9 ans. Ils ont eu un écho terrible. Donc il y a une charge émotionnelle qui ressort, vous l'avez filmé. Voilà, tout ça, on aurait pu en faire l'économie.
Voilà, la présidente du tribunal reconnaît tout de même dans sa lecture de graves dysfonctionnements à l'époque dans le service de la BAC Nord. Mais tout ceci n'a pas été vain. Nuance Dominique Allegrini, l'avocat d'un des policiers révoqués.
Elle ne se termine pas comme un pétard mouillé parce qu'il y a eu des dysfonctionnements. Ça a permis de faire un certain nombre de recadrages qui sont utiles. Mais c'est là qu'on a réussi à poser finalement le juste milieu entre le recadrage utile et le déchaînement absurde auquel on avait assisté.
Et au total, 7 relax totales ont été prononcées, mais le parquet conserve la possibilité de faire appel de ce jugement.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille.
Jean Castex annonce saisir le Conseil constitutionnel au sujet de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. globale définitivement adoptée il y a une semaine.
Oui, parce que le Premier ministre veut lever tout doute, car même si cet article a été réécrit, il est toujours contesté. Article qui a pour ambition affichée, on le rappelle, de protéger les forces de l'ordre en opération en pénalisant la diffusion malveillante de leur image.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal. Quoi de mieux qu'une journée de la Terre pour organiser un sommet sur le climat?
40 dirigeants du monde entier réunis par visioconférence à l'initiative de Joe Biden. Sonia Dridi, on vous retrouve. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. Sonia, le président américain cherche clairement à regagner en crédibilité après les années Trump.
Oui, Joe Biden, pressé de tourner la page Trump, veut réparer les pots cassés. Il avait déjà commencé à le faire dès son arrivée au pouvoir en rejoignant l'accord de Paris sur le climat que Donald Trump avait quitté en fanfare. Alors que son prédécesseur était dans le déni, Biden est alarmiste sur la crise climatique. Il a annoncé aujourd'hui une cible plus ambitieuse que prévue pour les États-Unis.
Les États-Unis ont pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. Cette décennie est décisive. C'est une décennie pendant laquelle nous devons prendre des décisions pour éviter les pires conséquences de la crise climatique.
Cet objectif double quasiment l'ancien engagement de Washington. Le président français Emmanuel Macron a salué cette annonce. Plusieurs dirigeants ont applaudi le retour de l'Amérique sur le dossier climatique. Les invités à ce sommet ont tenté de faire figure de bon élève. Le président chinois a réaffirmé l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2060, malgré les tensions actuelles avec Washington. De son côté, l'Union européenne est parvenue à un accord juste avant cette réunion sur une réduction d'au moins 55% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington, mais manifestement tout cela est encore insuffisant pour la militante Greta Thunberg qui accuse les dirigeants d'ignorer le changement climatique.
La Turquie maintenant qui ouvre une enquête contre le fondateur d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies.
Il est soupçonné d'avoir fui à l'étranger avec les avoirs de ses clients. Le scandale avait touché toute l'Europe en 2017. Des œufs contaminés au fipronil. Eh bien, un procès se tenait aujourd'hui en Belgique. Des peines d'un an à quatre ans de prison ont été requises, notamment contre la société qui avait commercialisé un produit de désinfection des fermes avicoles qui contenait cet insecticide pourtant interdit.
Le football, côté business. Avec cette petite nouveauté l'an prochain, le ballon de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sera un ballon Décathlon.
Oui, vous connaissez Kipsta, la marque de Décathlon. Eh bien, elle va en effet équiper les championnats français. Marguerite Lefebvre, c'est un beaucoup de com' qui fait beaucoup parler en tout cas.
Oui, et cette annonce a évidemment provoqué une pluie de commentaires sur les réseaux sociaux. Deux camps s'opposent depuis quelques heures. Il y a tous ceux qui moquent l'image amateur que renvoie Décathlon et son ballon Kipsta, et puis les autres qui, au contraire, ont plutôt hâte de voir ce changement d'équipementier. Ce qui est certain, c'est que c'est clairement un aboutissement pour l'enseigne qui mise depuis quelques années sur ses propres marques, sur ses produits maison, mis au point et perfectionnés par les ingénieurs Décathlon. Au bout de cette stratégie, avec cette montée en gamme, il y a donc l'entrée dans le sport professionnel. Décathlon avait déjà équipé plusieurs équipes, des équipes de foot ou de rugby notamment, mais aujourd'hui, la stratégie est encore plus assumée. En janvier dernier, l'enseigne a signé un contrat avec la NBA aux États-Unis et aujourd'hui, donc, il y a ce partenariat avec la Ligue de football professionnel. C'est une immense vitrine pour Décathlon, dont le chiffre d'affaires est malmené depuis quelques années, et puis pour la Ligue, mais c'est aussi une manière de se rapprocher des fans grâce à la puissance du réseau Décathlon, grâce aux 300 magasins de l'enseigne qui sont implantés en France.
Précision signée Marguerite Lefebvre.
Voilà, très beaucoup pour Décathlon, à savoir maintenant si le ballon est fabriqué en France ou pas. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres. La météo, Anissa Haddadi, une magnifique journée prévue demain, voilà, il n'y a rien d'autre à dire.
Oui, le soleil va briller pour tout le monde demain, sans exception. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà eu une belle journée, surtout sur la moitié nord. Dans le sud, c'était un petit peu plus chaotique, avec d'ailleurs beaucoup de nuages sur les Pyrénées. Et bien demain, tout le monde sera servi. Nous aurons quelques cumulus qui bourgeonnent sur le massif central et les Alpes, mais rien de très inquiétant. Dans le sud, le vent d'OTAN souffle toujours sur le Languedoc et le Roussillon, jusqu'à 70 km/h. Sur les côtes de la Manche, c'est encore le vent d'est qui reste sensible. Les températures, elles sont fraîches dans le nord, avec des petites gelées sur la Picardie et la Champagne. Partout ailleurs, nous aurons 2 à 12 degrés, 2 à Lille, 5 à Paris et Dunkerque, 9 à Quimper et Bordeaux et 12 à Nice. Et puis alors, sous la veste, vous pouvez mettre un petit t-shirt demain parce qu'il va faire vraiment bon l'après-midi. Avec des températures en hausse, 14 degrés à Boulogne-sur-Mer, 15 à Cherbourg, 17 à Nancy et Belfort, 20 degrés à Paris et Bastia, 22 à Rennes et Lyon, 23 à Brest.
Même température à Paris et Bastia?
Ouais, c'est dingue.
Je le note dans mon almanach.
Ouais, 20 à Paris et Bastia, 23 à Brest, 25 pour Bordeaux. Et la maximale est prévue dans le sud-ouest.
Suspense.
Avec 26 degrés à Mont-de-Marsan.
Mont-de-Marsan.
Entre autres.
Merci ma chère Anissa, vous revenez nous voir évidemment à 18h30.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et aujourd'hui, dans le cadre de la grande journée Europe 1 pour la Terre, notre invité ce soir à 18h20, un écolo pragmatique qui a fait le tour du monde en avion solaire, l'explorateur Bertrand Piccard, président aussi de la fondation Solar Impulse. Bonsoir Bertrand Piccard.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors, c'est vrai que je disais un écolo pragmatique, car c'est vrai que plutôt que d'idéalisme, vous parlez-vous de réalisme. Et vous dites par exemple, arrêtons d'opposer capitalisme et écologie, car on peut faire en somme de la protection de la planète un business intelligent.
Mais c'est même pas seulement que nous pouvons, c'est que nous devons. Parce que vous savez, à l'occasion de la journée de la Terre, on parle de la nature, on se dit que la vie est belle, que la Terre est belle, que tout ça c'est magique et qu'il faut le protéger. Mais ça suffit pas, il y a 364 autres jours dans l'année où les décideurs politiques ou économiques parlent en termes de création d'emplois, de profits industriels, de parts de marché, etc.
Oui.
Et il faut leur donner à tous ceux-là des solutions concrètes, très pragmatiques, qui protègent l'environnement, mais qui en même temps répondent à leurs besoins de création d'emplois et de profits. Et c'est ce qu'on a fait avec la Fondation Solar Impulse.
Vous êtes anti-décroissant, en somme.
Mais je pense que la décroissance est une catastrophe sur le plan social. C'est des millions de chômeurs, c'est des entreprises qui font faillite, c'est des caisses de pension et d'assurance vieillesse qui n'arrivent plus à payer ce qu'elles doivent payer.
Oui.
Donc, sur le plan social, la décroissance est une catastrophe.
Oui. Bertrand Piccard, après deux tours du monde, vous parlez de solutions, vous vous lancez désormais un nouveau défi, trouver 1000 solutions labellisées par votre fondation, avec des choses, j'ai regardé un peu dans le détail, tout à fait concrètes, comme la machine portative de recyclage des déchets plastiques. Alors, comment ça marche, ça, par exemple ?
Mais écoutez, vous savez, avec les déchets aujourd'hui, c'est des ressources, et on ne comprend pas assez à quel point c'est des ressources. Avec ces systèmes de recyclage, on peut prendre des déchets plastiques pour faire des produits de qualité, des cires ou des solvants. On peut produire de l'énergie avec les déchets plastiques. On peut recycler des déchets plastiques pour en faire d'autres plastiques. Et on peut même maintenant rajouter une enzyme à certains plastiques pour qu'ils deviennent compostables.
Alors, il y a plein de choses très concrètes, on ne va pas toutes les énumérer, mais par exemple des nouvelles prises électriques. Comment vous les avez trouvées d'ailleurs, ces 1000 solutions ? C'est beaucoup, 1000 solutions ?
Écoutez, c'est énorme. Et on m'avait dit au départ que j'étais complètement fou, que jamais j'en trouverais autant. Mais écoutez, j'ai une équipe fantastique à la Fondation Solar Impulse. On a été voir des investisseurs qui investissaient en venture capital dans des startups. On a été voir des associations de technologies propres. On a été sur des forums d'innovation. Et puis au début, c'était dur de les convaincre. Et puis maintenant, ça arrive à l'appel. Maintenant qu'on a passé les 1000 solutions, on en a 200 dans le pipeline. Il y en a encore une centaine qui sont arrivées la semaine dernière en se disant on aimerait aussi faire partie de ça.
Alors justement, Bertrand Piccard, vous appelez maintenant les gouvernements évidemment à flécher les milliards d'euros promis dans le cadre des plans de relance vers ces solutions innovantes. Est-ce que d'abord vous avez été entendu jusqu'à présent ?
Aujourd'hui, les gouvernements auxquels j'ai parlé, au niveau de la présidence de la République, au niveau de régions comme l'Île-de-France, le Grand Est, c'est beaucoup de réceptivité, c'est beaucoup d'intérêt. Ils savent qu'en fait, ça leur donne les outils qu'il faut pour atteindre les buts environnementaux. Donc, c'est ça que je veux, c'est aider les gouvernements à aller plus loin.
Oui, il faut passer aux travaux pratiques maintenant. Et on sera là pour ramasser les copies dans quelques mois. Alors, vous dites aussi, Bertrand Piccard, trop de gouvernements et d'entreprises annoncent des objectifs de neutralité carbone pour 2050 sans avoir vraiment les solutions concrètes à mettre en œuvre pour les atteindre. Justement, question précise, est-ce qu'ils sont encore atteignables, ces objectifs de limiter la hausse des températures à 2 degrés d'ici à 2050, certains spécialistes, comme Jean-Marc Jancovici, disent par exemple, pour y arriver, c'est 4 points de PIB en moins par an. C'est à peu près ce qu'a produit le Covid, l'économie mondiale à l'arrêt pendant quasiment un an. Ça paraît impossible d'atteindre ces objectifs aujourd'hui.
Vous savez pourquoi une déclaration comme celle-là est fausse ?
Oui.
C'est que elle se base sur un PIB qui est couplé à la consommation et à la production. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut changer ce paradigme et on peut coupler le PIB à l'efficience. Parce que l'efficience rapporte beaucoup plus que la consommation.
Oui.
L'efficience, c'est quand on a besoin de moins de ressources pour obtenir un meilleur résultat. Et tout ça, ce sont des services, ce sont des technologies, ce sont des produits qui permettent aux consommateurs de baisser la facture finale, qui permettent à des entreprises de les produire et de les vendre. Mais tout ça en ayant un impact réduit sur l'environnement et même parfois en protégeant directement l'environnement.
Quand vous évoquez le pouvoir d'achat, ça vaut aussi pour les produits de grande consommation, l'habillement, les vêtements, les jouets, les bijoux ?
Mais absolument. Dans les bijoux, vous avez des marques de luxe maintenant qui commencent à utiliser des produits recyclés pour les bracelets de montre, pour les emballages de l'inox beaucoup plus écologiques pour les boîtiers de montres. Et on est sur la bonne voie. Ce qu'il faut décroître, c'est le gaspillage et l'inefficience. Et ce qu'il faut croître, c'est l'efficience et tous les produits qui protègent l'environnement. Donc il y a de l'espoir, absolument.
Sur le nucléaire, qui est un sujet qui fait débat, évidemment, Bertrand Piccard, l'Europe a finalement repoussé sa décision sur la question du nucléaire comme énergie de transition. Le nucléaire, c'est zéro émission de CO2. Est-ce que c'est pour vous une énergie d'avenir ?
Alors, le nucléaire, c'est excellent quand on parle de réduction de CO2. Oui. C'est catastrophique quand on parle de durabilité, parce que l'énergie qu'on produit aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui, c'est 250 000 générations qui devront s'occuper de nos déchets. Quand vous avez au Portugal l'offre d'achat qui a été gagnée par Acuo, qui est une boîte française, pour produire de l'électricité solaire à 1,6 centimes le kilowattheure, vous êtes 4 fois moins cher que le nucléaire.
Oui, mais il y a un problème de production quand même. Une grande centrale produit pour des dizaines de milliers de foyers quotidiennement, alors qu'il faut des milliers d'éoliennes ou des milliers de centrales solaires pour produire l'équivalent d'énergie.
Oui, mais beaucoup moins cher.
Oui.
Beaucoup moins cher. Et vous avez des possibilités maintenant de produire de l'hydrogène avec de l'énergie solaire bon marché, pour avoir des carburants qui sont complètement verts, complètement propres, complètement neutres sur le plan carbone. Donc, je ne dis pas du tout que le nucléaire, c'est le diable. Je pense qu'il faut sortir du débat émotionnel. Oui. Il faut simplement voir dans les faits ce qui va coûter le moins cher.
Oui.
Et aujourd'hui, le nucléaire, avec l'augmentation de sécurité, les carénages qu'il faut rajouter, etc., coûte de plus en plus cher. Il n'y a qu'à avoir Hinkley Point en Angleterre.
Oui.
Et le renouvelable, solaire, éolien, biomasse, etc., est en train de s'écrouler au niveau du prix.
Oui.
Donc, les courbes se sont déjà croisées. Et maintenant, ça continue à devenir encore plus avantageux pour le renouvelable. Donc, profitons-en. C'est là qu'il faut mettre l'argent, de la relance économique.
Bien, Bertrand Piccard, un mot aussi de l'aérien, qui est votre sujet d'une certaine manière, que vous connaissez bien. Vous êtes aviateur, fondateur du premier avion solaire. Est-ce que l'avenir de l'aérien, c'est l'énergie solaire ou c'est l'hydrogène ?
Alors, l'énergie solaire ne va pas facilement propulser des avions commerciaux, parce que nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire voler un avion avec une seule personne à bord.
Donc, c'est plutôt l'hydrogène.
Donc, on n'est pas encore prêt de le faire à l'échelle commerciale. Par contre, le solaire au sol, qui fabrique de l'hydrogène pour des avions qui sont ravitaillés avec de l'hydrogène propre. Oui, tout à fait. Airbus a un magnifique programme là-dessus. Et puis, il y a autre chose qui est très prometteur, c'est les carburants synthétiques. C'est-à-dire, on prend du CO2 dans les usines, dans les cheminées des usines, on le combine avec de l'hydrogène produit par énergie solaire, et on a des chaînes de kérosène qui sont complètement neutres sur le plan carbone.
Oui.
En attendant d'avoir ça, et si les compagnies aériennes veulent sauver leur peau, il faut qu'elles fassent la compensation carbone sur chaque billet d'avion. Et ça, il faut absolument que les compagnies aériennes s'y mettent si elles veulent diminuer l'agressivité du public à leur égard.
Oui. Et quand vous entendez, par exemple, Bertrand Piccard, la maire de Poitiers, qui dit que l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants, ça vous révolte ?
Je dis qu'elle pense au passé au lieu de penser à l'avenir.
Oui.
D'ici 5 ans, à Poitiers, les avions de l'aéroclub seront électriques. Aujourd'hui, tous les avions d'entraînement sont la nouvelle cible des constructeurs. Et il y a déjà aujourd'hui des avions 2 places, 3 places, 4 places qui volent avec des batteries, qui ne font aucun bruit, qui ne font aucune pollution et qui peuvent entraîner des pilotes et permettre aux enfants de rêver à l'aviation et aux énergies renouvelables en même temps.
Voilà, l'avion
donc
peut encore faire rêver, Bertrand Piccard.
Mais au moment où on coupe les rêves, on coupe l'espoir, on coupe l'avenir.
Oui.
Il n'y a qu'en rêvant d'un monde meilleur qu'on va pouvoir continuer à se battre. Et le monde meilleur, c'est pas un monde où il n'y a plus rien. C'est un monde où on aura tout fait mieux.
Bon, et puis on peut rêver en regardant les étoiles. J'imagine que demain, vous aurez les yeux rivés vers la Floride pour le départ de Thomas Pesquet. Vous avez une pensée pour lui ?
Bien sûr, Thomas est un ami. Et je me réjouis tellement qu'il puisse faire cette deuxième mission. Ça va être magnifique. Et c'est quelqu'un de telle qualité plus, il va faire profiter tout l'équipage de l'ISS de sa bienveillance et de ses compétences. Donc, je me réjouis de le savoir là-haut.
Bien, on lui transmettra le message si on arrive à lui parler d'ici là. Merci Bertrand Piccard d'avoir été ce soir avec nous dans Europe Soir. Et on vous retrouve d'ailleurs bientôt, puisque vous allez remettre les trophées européens de la France qui bouge. Merci infiniment d'avoir été ce soir notre invité.
Avec plaisir. Merci de votre invitation.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel de l'info avec Isabelle Millet.
Fermer une classe tout de suite, dès le premier cas détecté, ce sera la règle dès lundi pour la reprise des cours en primaire et en maternelle. Jean Castex Castex vient de présenter le nouveau protocole sanitaire pour les écoles. Le Premier ministre souhaite également un renforcement massif des tests salivaires. Concernant les lycées, de retour en présentiel le 3 mai, ils seront tous en demi-jauge. Même chose pour certaines classes de collège. Concernant la situation sanitaire, elle s'améliore. Le pic de la troisième vague est derrière nous, a dit ce soir le Premier ministre. Quant à la nouvelle que tous les Français attendaient concernant les commerces, les activités culturelles et sportives et les terrasses, eh bien le Premier ministre reste prudent. Il pourrait rouvrir autour de la mi-mai, seulement si la situation sanitaire le permet. Ce qui est confirmé en revanche, c'est la fin des contraintes de déplacement dès le 3 mai. On n'aura donc plus besoin d'attestation. Les entreprises pourront souscrire un PGE, un prêt garanti par l'État jusqu'à la fin de l'année. Ce dispositif devait initialement s'interrompre fin juin. En revanche, la prise en charge par l'État de l'activité partielle va diminuer à partir de juin pour les secteurs non prioritaires. Le procès de la BAC Nord de Marseille, 7 policiers relaxés, de la prison avec sursis pour les 11 autres. Et puis Joe Biden donne le ton à l'ouverture du sommet sur le climat. Il met en garde contre le coût de l'inaction. Les États-Unis se fixent l'objectif de réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. La Chine, elle, vise la neutralité carbone à l'horizon 2060.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. La météo avec Anissa qui nous annonce, on ne peut pas rêver mieux j'ai envie de dire, un grand ciel bleu et de la chaleur pour demain sur quasiment toute la France.
Oui, c'est vraiment un vendredi parfait. Alors dès le début de la journée, le soleil va s'imposer, il va briller partout. La matinée sera un petit peu fraîche hein, puisque les gelées matinales vont toucher les régions situées au nord de la Seine comme la Picardie ou encore la Champagne. Dans l'après-midi, le thermomètre va bien grimper. Nous aurons 14 degrés à Boulogne-sur-Mer, 15 à Cherbourg, 16 à Lille et Amiens, 18 degrés pour Strasbourg, 20 à Paris et Perpignan, 22 à Rennes et Lyon, 23 à La Rochelle, 24 à Toulouse, on ne s'arrête pas là, 25 pour Bordeaux. Et la maximale de 26 degrés est prévue pour Albi.
Eh bien voilà, des bonnes nouvelles. Ouais. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure. Vous ne changez rien.
Non,
on vous retrouve à 19h avec les mêmes infos.
Bien sûr.
Merci, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, place au débat des grandes voix du jeudi. Avec ce soir à mes côtés, Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Bonsoir.
Bonsoir
Bruno.
Julien.
Le politologue Jean Garrigue, l'historien Jean Garrigue, que dis-je. Bonsoir Jean.
Bonsoir Julien.
Et puis le rédacteur en chef adjoint du Parisien, Henri Vernet. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Alors on commence évidemment par le débrief de la conférence de presse de Jean Castex, qui se poursuit d'ailleurs avec les questions des journalistes. Jean Castex qui a donc précisé des éléments du calendrier de déconfinement, c'est ça. Première conférence de presse depuis un mois, tout de même, avec à ses côtés Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer pour l'éducation nationale. Quelques annonces et notamment la confirmation de la fin des restrictions de circulation.
À partir du 3 mai, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. Cette liste n'est pas définitivement fixée. Elle sera assortie de conditions particulières, le cas échéant, je le disais, territorialisées, qui évolueront au fil des étapes.
Bien, il y a quelques annonces également qui étaient très attendues sur les écoles, notamment le protocole pour la rentrée des classes qui sera donc lundi a été ajusté, a été confirmé, puisque les annonces avaient plus ou moins filtré, mais c'est à peu près tout, Bruno Jeudy. Pas d'annonce concernant la réouverture des commerces, pas d'annonce concernant la réouverture des restaurants. On sait que c'est autour de la mi-mai, on le savait déjà. C'est le président de la République qui, vraisemblablement, devrait préciser les choses. On parle d'une allocution dans les prochains jours ou les prochaines semaines. C'est le bon timing pour déconfiner ?
Vous en savez des choses, Julien. On espère que c'est la mi-mai. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation. On est dans le flou, on reste dans le flou parce que, au fond, c'est un déconfinement qui s'organise pour des raisons plus politiques que sanitaires. Oui. Ça ne s'appuie pas sur des seuils, comme ça avait pu être le cas lors du déconfinement précédent. Et donc, c'est l'exécutif qui décide, eh ben là, on va faire les écoles. Il n'y a pas de raison de faire les écoles lundi. Oui. Ça reste très élevé. On va faire les terrasses peut-être entre le 13 et le 17 mai.
Une promesse qui avait été faite par le président lorsqu'il avait annoncé.
C'est une promesse.
Et c'est la fin des vacances, on peut dire
c'est
ça.
C'est une promesse. C'est l'idée que ça devait être un confinement court,
oui,
et qu'on déconfinerait ensuite forcément derrière, oui, lentement, à petits pas.
Donc c'est un déconfinement politique.
C'est un déconfinement politique parce que nous sommes à un an de la présidentielle, qu'on ne va pas continuer à laisser les gens enfermés. Ce confinement n'a eu lieu que parce qu'ils ne pouvaient plus faire autrement. Et donc, nous allons en sortir parce que la promesse est faite qu'on en sortirait.
Donc, quand le président de la République et le Premier ministre, là ce soir, Henri Vernet, dit en substance « ça va mieux, le pic de la vague est sans doute derrière nous », c'est ce qu'a dit le Premier ministre, il l'a dit comme ça. « Le pic de la troisième vague est sans doute derrière nous, on voit que ça décroît et on est sans doute au sommet des hospitalisations et des réanimations ». Là aussi, c'est de la méthode Coué ?
Oui, parce que là, il spécule un peu. En réalité, les chiffres que donnent, ou en tout cas les projections que donnent les épidémiologistes, les infectiologues, c'est plus réservé. Ils disent que le pic, il est peut-être encore devant. On est proche, sans doute, mais est-ce qu'il est juste derrière
ou
juste devant ?
Et
juste derrière. C'est, oui, ça, mais depuis le début, il y a une espèce de pari politique autour de ce confinement, ce déconfinement.
Alors, on n'a jamais engagé un déconfinement. Il y en a eu trois. On n'a jamais engagé un déconfinement avec des seuils de contamination et d'hospitalisation si hauts.
Alors, ben justement, c'est là que ça interroge. Après, là où le pari reste un petit peu limité malgré tout, c'est que, encore une fois, quand ces scientifiques parlent de ça, on voit bien que c'est soit juste derrière nous, ce fameux pic, soit juste devant. Simplement, on ne sait pas exactement où on est, puisque par définition, le maître des horloges, le maître du temps, comme l'a dit le président lui-même naguère, c'est le virus, c'est pas lui, c'est pas les politiques. Alors, juste une petite nuance, il faut quand même remarquer que Castex, après tout, il est un tout petit peu, il est un poil plus prudent que, par exemple, Gabriel Attal, le porte-parole hier, qui était beaucoup plus allant, beaucoup plus affirmatif sur une réouverture assez prochaine des commerces. Donc on sent quand même qu'il y a, non pas deux lignes, mais il y a au sein de ce gouvernement, au sein de l'exécutif, mais il y a néanmoins quand même une volonté plus ou moins affirmée de rouvrir vite. Alors c'est vrai aussi que le mantra qui reste l'intangible, c'est en effet l'ouverture des écoles. Ça, c'est le pari de ce gouvernement depuis le début. C'est vraiment l'engagement de Macron. C'est là que réside le pari le plus important. Il est là, c'est dans ce maintien des écoles.
À ceci près qu'en novembre, on avait réussi à maintenir les écoles ouvertes en freinant drastiquement l'épidémie. Donc, c'est un pari, mais limité, j'ai envie de dire. Alors que la réouverture des terrasses, où on sait que quand on est face à face en train de boire un verre, un café, ou de prendre un petit quelque chose à manger, on est sans les masques et c'est là que les contaminations risquent d'être importantes. Donc le pari, il est aussi sur la réouverture à venir, parce que le président a quand même avancé ses pions sur la réouverture éventuelle des terrasses aux alentours de la mi-mai.
Alors, c'est clair que c'est un pari politique, ça. On voit bien que les experts sanitaires ont été mis de côté et que la logique, elle est complètement politique.
D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne les entend plus, les experts sanitaires. Pourquoi on continue de les inviter ? On se souvient de la tribune dans le JDD, on se souvient de la tribune dans le Monde.
Ils sont passés au second plan et c'est la logique politique qui prédomine, mais effectivement, parce qu'on se rapproche des élections. Je ne suis pas sûr que...
Vous dites que les élections, ça joue un rôle ?
La perspective de la présidentielle, puisqu'on voit très bien se déterminer déjà quelques candidats qui attaquent, qui font des propositions, même sur Twitter, comme Xavier Bertrand. Enfin, on voit bien qu'on est dans le lancement de cette course. Mais je ne sais pas si le risque principal, c'est l'ouverture des terrasses, parce que de plus en plus d'experts vous disent que finalement, la contamination à l'extérieur n'est pas risquée. Il y a un vrai risque.
Le benchmark, ça va être l'Angleterre. Vous voyez à Londres, et on s'en réjouit pour eux, la densité sur les terrasses.
C'est la meilleure pub pour le Brexit.
La foule collée serrée sur les terrasses, on verra où ils en sont dans un mois, qu'ils ont plus vaccinés que nous.
Oui, non, mais il y a un vrai risque économique en revanche. Et on voit bien que les restaurateurs sont extrêmement prudents là-dessus, parce qu'ils disent que d'abord, il y a ceux qui ne pourront pas ouvrir des terrasses, ceux qui n'ont pas des espaces de terrasses suffisants. Il paraît qu'il y a 100 000 salariés de la restauration qui sont dans le... on ne sait pas où ils sont.
Qui ont changé de métier, de direction.
Et ça pose des problèmes énormes. Et c'est dès maintenant que devrait se préparer justement une ouverture des terrasses. Ça pose beaucoup de problèmes économiques, sociaux, et alors des problèmes à l'école, parce qu'à l'école, ça c'est quelque chose que je connais bien étant dans ce milieu-là, vous avez incontestablement des mesures qui, me semble-t-il, auraient dû être prises pendant l'espace des vacances, sur notamment les autotests, sur les tests salivaires.
Alors, c'est le cas. Le Premier ministre annonce des autotests, des tests salivaires pour les primaires dans les écoles, et puis des autotests... deux fois par semaine pour les enseignants et notamment pour les élèves de collège et lycée. Alors, on ne va pas tout le temps critiquer, parce qu'on pourrait tout le temps tout critiquer, Bruno Joly. Il y a quand même une perspective, il y a quand même un cap. Le président de la République, bon an, mal an, a tenu ses promesses, mais
Il y a quand même quelque chose, c'est sur les protocoles. Sur les protocoles de déconfinement, on voit, et on en parlera tout à l'heure dans le débat du Club des idées, ce qu'ont fait les Israéliens, ce qu'ont fait les Australiens, ce qu'ont fait les Néo-Zélandais, ce qu'ont fait les Coréens du Sud, ce qu'ont fait les Taïwanais. Il y a des trucs formidables qui fonctionnent très bien sur le tracking, le tracing, le testage, l'utilisation des smartphones, les nouvelles technologies. En France, on a l'impression que depuis un an, on n'a pas beaucoup avancé là-dessus.
Non, on n'a pas beaucoup avancé. Alors, je crois, bon, forcément, le gouvernement est en partie responsable. Je pense aussi collectivement, les Français sont aussi, ont aussi leur part de
Combien ont téléchargé l'appli, par exemple,
responsabilité. On l'a vu, ça a beaucoup traîné pour télécharger l'appli qui marche d'ailleurs très bien. Je crois aussi que, de toute façon, aujourd'hui, on a un tel niveau de contamination que le traçage, tout ça, on oublie. Alors peut-être qu'il faut se préparer lorsqu'on aura suffisamment baissé le nombre de contaminations, parce qu'aujourd'hui,
voyez, je prends un exemple. Je prends un exemple. Le variant brésilien, le variant indien, on sait que c'est potentiellement le nouveau variant anglais. Il est très peu présent aujourd'hui sur le territoire, mais demain, il pourrait être exponentiel. Ça a commencé comme ça avec le variant anglais. On continue de laisser les passagers arriver.
Et on le trace très mal.
On les isole.
J'ai eu le variant brésilien, je l'ai su je ne sais pas combien de temps après que j'avais eu le variant brésilien. Donc, j'ai été super contaminateur, donc je peux vous en parler longuement. Oui, mais on le sait beaucoup trop tard, parce que les labos, ils ont mis du temps à pouvoir le tracer. Donc c'est, oui, il y a beaucoup de retard. On a accumulé beaucoup de retard par rapport... et on a sans doute été un peu moins performant, moins audacieux.
Et présomptueux, peut-être.
Et voilà, c'est moins dans notre culture.
Ouais, Henri Vernet, c'est vrai qu'un déconfinement, ça se prépare. C'est le troisième, donc là, il ne faut pas se rater quand même.
Non, il ne faut pas se rater, mais disons que là, par rapport à toutes les mesures que vous avez citées, d'abord, certains de ces pays sont très avancés en termes de vaccination. Le cas d'Israël est patent là-dessus. Quant aux autres, ils ont, depuis le début, opté pour la fameuse stratégie du zéro Covid. Je pense notamment, parmi ceux que vous citiez, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande. Ça, clairement, la France n'a jamais fait ce choix-là.
À Taïwan, par exemple, chaque jour, visiblement, vous recevez un petit texto vous demandant si vous avez des symptômes, si vous vous sentez bien, qu'il faut contacter.
Alors, très bien.
Ça n'existe pas.
Et en effet, ça a été le cas. Alors voilà, c'est ça. Est-ce que vous accepteriez cela ? Il y a ça aussi, il y a le degré d'accès. Il y a la culture, quelque part, politique, citoyenne, d'une société. Est-ce qu'en France, on accepterait des mesures qui ont été mises en œuvre à Taïwan ? Alors, Taïwan, c'est une démocratie. Ça. Ce n'est pas ça qui est mis en cause. Mais simplement, c'est une île, exactement, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande. Et donc, il y a des méthodes qui ne sont pas comme ça généralisables partout. Mais juste pour finir avec ça, donc n'ayant pas opté résolument pour sa stratégie du zéro Covid, qui est en effet illusoire quand on n'est pas une île ou quand on n'a pas une discipline de fer collective, la stratégie qui maintenant est clairement choisie, c'est celle de la vaccination. Et là, vous disiez, il ne faut pas critiquer tout le temps, le fait est que là, pour le coup, ça avance. Je veux dire que les derniers chiffres montrent quand même... Il faut qu'on garde une dose de nuance tout le temps, sinon on ne serait pas... Je partage totalement, mais le fait est que
ça avance. Vous ne pouvez pas vous empêcher,
non, parce que la vaccination, globalement, on est la moyenne européenne, c'est à peu près tous les pays. C'est quand même dommage.
Vous avez vu ce qu'il dit ce soir ?
L'Union européenne est ratée quand même globalement. C'est pas la France. La France, on est à peu près au même niveau que l'Allemagne.
Vous avez vu ce qu'il dit ce soir, Jean Castex ? Il dit on est le pays le plus performant sur la vaccination aujourd'hui, dans le nombre de vaccinations
Vaut
mieux s'arrêter.
Il faudrait éviter les déclarations un peu bravaches comme ça, parce que on est dans le peloton de tête, mais enfin on est 11e mondial. Enfin bon, mais je pense que le calendrier vaccinal sera tenu. À la différence des autres calendriers, qui étaient ceux des masques ou des tests, là...
On le rappelle, 20 millions de personnes, première dose à la mi-mai, 30 millions à la mi-juin.
On peut dire, sans trop s'avancer, que vraisemblablement, ce sera tenu. Et ça, c'est plutôt une victoire. Et donc ça, on peut comprendre que ce soit une satisfaction. Mais bon, il y a toutes les problèmes. Et puis, il y a des questions qui se posent, parce que vous avez, au même moment où là... on va un petit peu sortir des restrictions. En Allemagne, où pour la première fois, Angela Merkel a fait voter une loi qui va imposer le couvre-feu partout. Partout, dans tous les États, ce qui est par rapport à leur tradition fédérale est quand même totalement neuf. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on va essayer de sortir du marasme, eux, ils commencent à avoir des mesures plus restrictives.
Oui.
Mais bon, ça fait partie aussi de cette diversité européenne qui existe depuis le début.
Jean Castex sur les écoles, on en parlait tout à l'heure, je voudrais vous le faire écouter. Voilà ce qu'il disait il y a quelques instants.
Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves des écoles maternelles élémentaires, ainsi que leurs enseignants, regagneront leur classe. dans un cadre sanitaire le plus protecteur possible. Ce cadre prévoit à la fois un protocole très strict et un renforcement massif des capacités de test à tous les niveaux, élémentaires, collèges et lycées, aussi bien pour les élèves que pour tous les personnels. Ce seront, dès la semaine prochaine, plus de tests salivaires pour les écoles élémentaires. Nous en réalisions 250 000 par semaine fin mars. Nous en proposerons 400 000 par semaine à la reprise, avec la perspective d'atteindre 600 000 tests d'ici la mi-mai.
Voilà. En matière d'objectifs, je crois que Jean-Michel Blanquer avait déjà donné des objectifs en janvier ou en décembre dernier qui n'avaient jamais été
tenus. Donc c'est ça qui est avantageux pour eux, c'est qu'on oublie les
objectifs. On a un peu de mémoire quand même sur les objectifs. Par exemple, il y a les autotests avaient été décriés, vous vous souvenez, on a eu du mal à les mettre en application, on a dit que c'était compliqué, que c'était pas si simple pour
les
supermarchés, les pharmacies, bref. D'ailleurs, ça marche pas si bien parce que les Français se les arrachent pas. Mais ça y est, ils arrivent dans les lycées et les collèges.
Ils arrivent dans les lycées pour le personnel et pour les lycéens, puisque en dessous de 15 ans, il n'y a pas preuve que ça puisse fonctionner. Donc oui, il va falloir en faire beaucoup quand même, hein, parce que la promesse de Jean Castex, c'est qu'il y a eu plusieurs millions de commandes. Moi, hier, à Matignon, on m'a dit « Attention, ne nous précipitons pas, ils ne seront pas tous là tout de suite. » Donc, à mon avis, ça va quand même prendre quelques semaines avant de se déployer. Là encore, je pense que c'est vraiment, on a un problème de coordination. Mmh. C'est vraiment le genre de choses qui pourraient être prises en main par les collectivités. Et ce serait sans doute plus efficace. Les commandes de l'État, alors il faut choisir le meilleur qui fonctionne à 100%. Bon, voilà. Après, attention, ça, ce que raconte aujourd'hui Jean Castex, et c'est très bien détaillé, hein, on en parlait déjà avant le troisième confinement et ça n'a pas été en place ou c'était très très faible. La région Île-de-France avait mis en place des testeurs par exemple, enfin tout était en place et puis ça n'a pas fonctionné de manière, j'allais dire, industrielle parce que c'est 12 millions d'élèves, 1 million de professeurs.
On a encore un peu de mal avec la décentralisation. Ouais. On marque une courte pause les amis, 18h46 et on se retrouve dans un instant. On parlera aussi de Marine Le Pen, aux portes du pouvoir, nous dit la Fondation Jean Jaurès. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite des Grandes Voix du jeudi avec toujours Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, Jean Garrigue, l'historien, et Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Alors Marine Le Pen, on en parle, elle serait aux portes du pouvoir. C'est ce que nous apprend la dernière grande étude de la Fondation Jean Jaurès. C'est une possibilité non négligeable, dit le think tank, qui évoque trois éléments. La dédiabolisation réussie, une proximité idéologique entre la droite traditionnelle et l'extrême droite, et la fin du cordon sanitaire. Alors, on lui avait posé la question à Marine Le Pen, non pas sur cette étude, mais sur les derniers sondages. C'était en janvier dernier et elle répondait ceci.
Toute la théorie qui a été développée pendant des mois et des mois, elle ne peut pas gagner, 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 relevé de la méthode Coué. Ben si, elle peut gagner. L'hypothèse de ma victoire est une hypothèse crédible et même plausible. Et c'est vrai que ça change tout.
Henri Vernet, c'est vrai que plusieurs signaux vont dans le même sens. Les instituts de sondage, qui peuvent se tromper certes, la Fondation Jean Jaurès, des politologues qui disent aussi la même chose. Il y a vraiment... Une possibilité que Marine Le Pen soit élue en 2022 à l'Élysée.
Oui, parce que les urnes reflètent ce que veulent les électeurs et donc tout est possible dans une démocratie. On a vu ces derniers temps, que ce soit en France et ailleurs, d'assez énormes surprises et des personnages qu'on n'entendait pas arriver aux commandes, je pense tout dernièrement à Donald Trump aux États-Unis. Simplement, peut-être aussi qu'à force d'installer cette idée comme une évidence, parfois je me demande si on ne contribue pas aussi à la banaliser et donc à cette fameuse dédiabolisation dont tout le monde parle. Parce que là, on a vraiment l'air de tenir pour acquis que le deuxième tour sera celui-là. Alors là où la raison, c'est vrai que bien des freins ont disparu. Moi, aux trois raisons que vous citiez.
La dédiabolisation, ce n'est pas un débat qui est derrière nous. Parce que, aux yeux des Français, alors après, est-ce que c'est parce que les médias légitiment ou parce que les Français adhèrent? Mais la dédiabolisation, c'est un peu derrière nous aujourd'hui.
C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, le fait est que depuis 2017, en réalité, ce qui lui était reproché par beaucoup d'électeurs potentiels, et notamment ceux qu'elle pourrait pêcher, qu'elle pourrait récupérer à droite dans l'électorat LR, ce qui lui reprochait, c'est davantage une espèce d'incompétence, notamment en économie, qui était apparue de manière criante au fameux débat. Mais c'est vrai qu'entre ces atermoiements sur l'euro, on sort de l'euro, on n'en sort pas, l'Europe, pareil, le débat sur les retraites, 60 ans, plus alors, personne n'y croit aujourd'hui.
Aujourd'hui, elle ne veut plus sortir de l'euro et elle veut même rembourser la dette.
Et elle veut rembourser la dette, donc j'allais dire quelque part, elle est allemande, quoi. Elle est Merkel, hein, sur un terrain comme ça. Et donc, elle acquiert une espèce de crédibilité économique et donc de compétences de manière générale qui lui faisait totalement défaut. Et c'est vrai que ça participe en effet à cette idée que, bah oui, pourquoi pas. Maintenant, enfin, entre ce que disent des gens qui sont sondés aujourd'hui, je parle vraiment des électeurs de gauche ou des électeurs macronistes, disons, de 2017, qui cette fois, par déception, par colère, par dégoût, puisque ce mot apparaît dans la... par honte, hein, de Macron, ce mot apparaît dans l'enquête de la Fondation Jean Jaurès, n'irait pas. Je pense que il y a une différence entre ce qu'on dit aujourd'hui et ce qui se passerait réellement dans le fort intérieur de chacun d'entre nous si on était dans cette situation en 2022.
Alors, ce sont des mots importants que vous avez évoqués, Bruno Jeudy. C'est vrai que dans les éléments qui pourraient porter Marine Le Pen au pouvoir, il y a la détestation d'Emmanuel Macron qui ressort quand on demande à la population ce qu'elle ressent, enfin aux sondés, en voyant ou entendant Emmanuel Macron. Ce qui revient, c'est, nous dit la Fondation Jean Jaurès, la colère pour 28%, le désespoir pour 21%, le dégoût pour 21% et la honte pour 21%. Donc il y a un élément aussi de rejet, un peu comme en avait été victime Nicolas Sarkozy.
Oui, absolument. Il y a une partie de l'opinion qui déteste Emmanuel Macron pour différentes raisons. Il y a eu les gilets jaunes, il y a la crise sanitaire, et puis c'est le président sortant. Les présidents sortants sont souvent détestés. Celui-là peut-être un peu plus.
Et le péché originel, la suppression de l'ISF qui l'avait marqué, président
des riches. Il y a des tas de raisons qui, effectivement, donnent sans doute... à un an de la présidentielle, une tournure qui ressemble un peu à la campagne de 2002, avec une espèce de campagne où il n'y a plus vraiment d'adhésion à un candidat. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, on peut toujours se dire que le Rassemblement national, Marine Le Pen, peut rafler la mise. En tous les cas, on voit bien qu'au premier tour, elle conforte, elle est consolidée et même en progrès par rapport au premier tour de 2017. Une fois qu'on a dit ça, moi, je ne crois pas à sa victoire. Je crois qu'on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. Je pense qu'elle continue à être frappé du sceau de l'incompétence de manière assez forte, y compris à droite. Je pense notamment à la bourgeoisie de droite. Alors peut-être qu'une partie d'entre elles voudra mettre un coup de pied aux fesses à Macron, mais je crois qu'il y a une grande partie d'entre elles qui, à la fin, oscillera entre l'abstention ou le vote raisonnable, parce que, par exemple, Henri Vernet parlait d'une question qui me paraît assez fondamentale. Franchement, la retraite à 60 ans, ça reste quelque chose qui est un marqueur d'incompétence pour la droite, pour l'électeur de droite moyen en France. Alors certes, elle a abandonné sa folle idée de l'euro. Elle dit qu'elle pour remboursement de la dette, elle ne dit pas comment elle va faire. Elle a encore beaucoup de progrès à faire sur le terrain économique. Cette droite patrimoniale, elle va quand même s'accrocher un peu à un minimum de compétences.
Il y a encore beaucoup d'inconnus. Qui sera le candidat à droite?
Absolument.
Xavier Bertrand,
Édouard Philippe. C'est pour ça que je pense que le premier tour assuré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'est pas assuré, bah oui, parce qu'il y a un espace qui reste possible entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je pense que la surprise peut venir, à mon avis, de la droite. Je crois que la gauche, ça me paraît très compliqué aujourd'hui.
Jean Garry.
Je le crois aussi parce que cette enquête de la Fondation Jean Jaurès met un tout petit peu de côté dans l'ombre ces différences qui existent justement entre l'électorat des Républicains et l'électorat de Marine Le Pen. Et en tout cas, entre les idées que professent les électeurs républicains et celles que met en avant Marine Le Pen, qui au fond sont devenues aujourd'hui beaucoup plus proches, par exemple, de certaines idées qu'on peut trouver dans la France insoumise. Ce dont ne parle pas d'ailleurs bizarrement l'enquête de la Fondation Jaurès, puisque elle est quand même plutôt proche du Parti Socialiste, et que là on défend au contraire une sorte de fantasme qui ne se réalisera pas de l'unité de la gauche, puisque l'unité de la gauche ne peut pas se faire avec Jean-Luc Mélenchon comme finalement premier candidat de cette gauche. Mais il y a autre chose, il y a plusieurs éléments que je voudrais rappeler.
Oui, oui.
C'est d'abord que vous avez 57% des Français qui disent toujours qu'ils sont inquiets de Marine Le Pen. Ça veut dire qu'il y a une inquiétude par rapport à ce qu'elle représente pour des tas de raisons. Donc la dédiabolisation n'est pas totalement réalisée. Il n'y a que, je crois, à peu près 37% des Français qui lui accordent une stature présidentielle. Et ça, dans une élection présidentielle, ça me semble fondamental.
se dire que, qu'un candidat est à même d'assurer cette fonction, celle de cette monarchie républicaine, ça me, c'est la question de la crédibilité, la question de la compétence, ça me paraît très, très important.
Et celle des équipes qui vont autour.
Et, et je pense surtout celle des équipes qui vont autour. Et puis, il y avait encore un chiffre que je vais retrouver tout à l'heure, mais qui montrait à quel point il restait quand même une forte défiance par rapport à ce que représente Marine Le Pen.
Bien. Henri Vernet, vous allez regarder Thomas Pesquet demain ?
Oui, c'est même la une du Parisien.
C'est la une du Parisien,
oui, absolument.
Demain.
C'est le gros dossier, 24
heures. Comme nous tous, tous les Français sont devant.
Oui, parce que par les temps qui courent, il n'y a pas l'écran. Tellement d'aventures positives. Et là, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a un tel élan autour de cela en France, parce qu'évidemment, on sort du Covid.
Bien.
C'est un motif
Bruno
de...
Bruno Jeudy, Thomas Pesquet, président ?
Pesquet président, les Français l'adorent, il a été formidable lors de son premier voyage, les motifs de fierté aujourd'hui ne sont pas si nombreux, et Thomas Pesquet, commandant du prochain vaisseau qui part pour la Lune, c'est un motif de fierté, franchement ces derniers temps...
Bon, avant la Lune, il va sur la Station Spatiale Internationale,
mais je ne suis pas un grand spécialiste, donc je me tais sur la... mais je sais qu'il y a un motif de fierté, il y a un motif de fierté à travers Thomas Pesquet qui...
Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du jeudi. Merci.
Europe 1. Écoutez le monde changer.